sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Lors de la séance interacadémique exceptionnelle du 1er mars 2011, Pierre Léna, de l'Académie des sciences, a prononcé un discours ayant pour thème « La science en héritage ». Sous la coupole de l'Institut de France et en présence du chancelier Gabriel de Breuil, Pierre Léna a souligné la nécessité de changements profonds dans la transmission des savoirs. Rendez-vous tout de suite sous la coupole.
La science en héritage. Les merveilles de la science contemporaine enchantent les chercheurs, séduisent ou parfois inquiètent nos sociétés et leur jeunesse, interrogent la conscience morale, bouleversent nos vies par leurs applications. Ce constat, somme toute banal, bouscule la transmission de cette science au sein des institutions scolaires dans le monde entier. Évaluation nationale ou internationale, incertitude de bien des professeurs, insatisfaction de bien des élèves, tout exprime la nécessité de changements profonds dans la transmission de l'héritage scientifique à nos élèves. Et sans ces changements que je vais évoquer devant vous, la société de la connaissance et de l'innovation que nous voulons en Europe n'aura été qu'un beau rêve. Nous sentons bien déjà que les échéances prochaines vont placer l'éducation parmi les questions brûlantes posées à notre pays. Georges Charpak, qui nous a quittés en septembre dernier, l'avait pressenti, et l'Académie des sciences, tout à l'heure, a rappelé la vie hors du commun de cet immigrant, enfant accueilli par l'école française. Elle lui a rendu, en grande salle des séances, un solennel hommage en présence de tant de femmes et d'hommes, des plus modestes aux plus grands, qui l'inspira. La fécondité de ses intuitions, sa ténacité assortie d'un humour radical pour bousculer, pour séduire, pour convaincre, son sens de l'urgence éducative et sa rébellion devant les inégalités ont anticipé, en France et bien au-delà, le grand changement qui se dessine aujourd'hui dans l'enseignement des sciences. Notre Académie veut poursuivre son œuvre en France et de par le monde. Échec de l'élitisme républicain. Car aujourd'hui, les déterminations sociales sont devenues redoutables. Le niveau d'études de la maman, les échanges langagiers ou les compétences numériques avant l'âge de 3 ans, les performances scolaires en fin de cours élémentaire prédisent presque infailliblement le devenir scolaire d'un jeune en fin de collège. 40% de nos élèves entrant en classe de 6e ne maîtrisent ni les notions de base des mathématiques, ni celles des sciences de la nature. Alors, quelle égalité des chances pour ces enfants, souvent sans aisance langagière, écartés d'une compréhension raisonnée du monde, à la curiosité demeurant en jachère, à l'avenir déjà fermé. Ces enfants que beaucoup de familles, qui les aiment, mais qui sont aux prises avec les difficultés de l'ignorance, du sous-emploi, de l'immigration, ne peuvent accompagner dans leurs études au collège. Ces enfants dont beaucoup seront « orientés », comme on dit, sans choisir leur avenir ou sans obtenir aucun diplôme. 18% d'une classe d'âge aujourd'hui. Aussi, lorsque les enquêtes PISA, déjà citées, de l'OCDE interrogent les jeunes de 15 ans, elles confirment ce que disent nos évaluations nationales, ce déni de justice que vous avez voulu, Monsieur le Ministre, reconnaître publiquement, avec courage. Pour un tiers d'une classe d'âge, notre école est demeurée quasi vaine. La débuter à l'âge de 2 ans pourrait aider certaines familles, mais comment croire que cela suffira si rien de ce qui suit n'était changé? Sans doute, un autre gros tiers de ces élèves tire le meilleur de ses études en collège et ira vers notre enseignement supérieur. À bon compte, cela nous rassure sur l'existence d'une élite scientifique et technique. Celle-ci se renouvelle encore sans difficulté majeure, avec le quart d'une classe d'âge qui, au lycée, choisit soit la section scientifique, 80%, soit les sections technologiques de l'ingénieur ou du laboratoire, 20%. mais demeurons vigilants. Un affaiblissement des activités expérimentales, pilier d'un enseignement scientifique, nous préparerait vite de rudes désillusions. Georges Charpak rappelait souvent que cette élite, dont beaucoup ne choisissent plus d'ailleurs après leur baccalauréat des métiers scientifiques, est recrutée, de fait, sur une population de moins de 10 millions d'habitants. Peut-être les nouveaux internats d'excellence infléchiront-ils cette situation. Ces enquêtes internationales, PISA, placent la France à la moyenne, ce dont certains se contenteraient. Mais cette moyenne est une illusion, car elle résulte de ce grand écart entre le tiers excellent et le tiers à l'abandon. La nation consacre d'immenses ressources à l'éducation, bien que la dépense éducative nationale, qui croît en valeur absolue depuis 15 ans, représente pourtant en valeur relative une part décroissante de la richesse du pays. Devant un tel effort consenti par la nation, ne peut-on attendre de cette école qu'elle abolisse, au moins pour partie, de si lourds handicaps sociaux ou familiaux? Et les sciences, tout particulièrement, n'ont-elles pas souvent joué ce rôle d'ascenseur social? Lors de la création de l'école normale de l'an 3, en 1795, sur le modèle de l'école révolutionnaire du Salpêtre avec le chimiste Claude Berthollet, c'est avec la science que les conventionnels voulaient atténuer les privilèges de la naissance pour régénérer l'entendement humain. Or, cette science est devenue aujourd'hui le symbole d'une fort rude sélection. Ceci doit changer, car l'héritage que la science doit transmettre est plus que jamais indispensable à tous les jeunes pour affronter la complexité du monde présent. Nous devons leur apprendre à prélever, organiser, comprendre, exploiter l'information surabondante qui les entoure, à aimer cette intelligence du monde que donne la science. Trois voies prometteuses et enthousiasmantes peuvent remettre l'éducation en phase avec la science et le rôle social que celle-ci peut et doit jouer. Une transformation de la pédagogie. Le développement professionnel des professeurs au contact de la science vivante et de ses acteurs. Enfin, une conception plus globale du savoir. Un peu partout dans le monde, nous observons que s'établit sur ces trois orientations un consensus plein d'espérance. Nous les explorons avec nombre d'académies des sciences, car elles requièrent un travail commun et tout à fait nouveau entre scientifiques et ingénieurs et autorités éducatives. Ainsi, l'Allemagne, possédant pourtant un système en apparence plus discriminant que le nôtre dès la classe de sixième, a pris ses mauvais résultats PISA en 2000 très au sérieux et en une décennie a enregistré de vrais progrès. Trois voies, disais-je. Tout d'abord, une pédagogie nouvelle, celle de l'investigation, mélange subtil d'inductif et de déductif, pratiquée avec bonheur par l'élève. Elle n'est pas si nouvelle que cela, puisque la vision d'un Georges Charpak, qu'un enfant ou un adolescent fasse des mathématiques ou des sciences de la nature autant que d'en apprendre, fut aussi, cette vision, celle de Faraday, de Jean Perrin et de bien d'autres, faisant écho au leidenschaftlich neugierig, ce passionnément curieux dont Albert Einstein faisait le centre de son activité personnelle. Inutile d'insister ici trop longtemps sur ce message de la main à la pâte, désormais connu, sinon écouté, partout, qui percole tout doucement, trop lentement encore dans nos écoles primaires, comme au Pérou, en Chine, en Serbie ou au Maroc. L'hétérogénéité des classes, que je préférerais appeler ici « diversité des talents », y est un atout, quand le dialogue et la curiosité, universelle chez les enfants, rejoignent l'universalité de cette science qu'ils découvrent avec un verre d'eau, une bougie, un insecte. Mais rappelons au passage qu'après 16 années d'efforts soutenus de notre Académie des sciences, il demeure encore plus d'une moitié de nos classes primaires françaises où les sciences de la nature, figurant pourtant dans les obligations du programme, ne sont guère enseignées. Dans cette école primaire, ne mettons pas d'ailleurs à l'excès l'accent sur des apprentissages mécaniques du lire et écrire, oubliant par exemple que l'usage du cahier d'expérience, tel que le pratique la main à la pâte, ne le cède en rien, ni en précision, ni en créativité, à l'écriture d'une poésie. Vous avez engagé, monsieur le ministre, une lutte contre l'innumérisme, terme venu du Québec. Vous déplorez que nos CM2 ne sachent plus leur table de multiplication, tant cela va plus vite sur leur calculette ou leur téléphone. Et pourtant, nous savons tous que ces mêmes enfants, sur leur clavier chaque jour, excellent, bien mieux que nous, dans l'univers numérique, où ils fréquentent des nombres sans le savoir. N'est-ce point cela aussi qu'il faudrait explorer dans un laboratoire de mathématiques, où ces élèves s'étonneraient alors de pouvoir mettre une couleur sous forme d'un nombre, manipulant alors multiplication aussi bien qu'ordre de grandeur. Mutatis mutandis, une main à la pâte en mathématiques réduirait sans doute le terrible effet anxiogène de cette discipline, un effet connu qui touche plus de la moitié des filles et presque autant des garçons de 15 ans dans tous les pays de l'OCDE, sans compter leurs parents et parfois leurs maîtres. Seconde voie. Des professeurs accompagnés dans leur développement professionnel, on dit aussi formation continue, au contact de la science vivante et de ses acteurs. L'accent mis ces dernières années sur le processus de mastérisation dans nos universités fait oublier la bien mauvaise situation de notre pays quant à la formation continue de son corps enseignant. Un récent ministre de l'Éducation nationale, s'exprimant devant notre académie, qualifiait de totalement sinistré la formation continue des professeurs. À l'école, au collège, au lycée, comment un professeur fera-t-il aimer la science à ses élèves sans en cultiver pour lui-même le goût, fût-ce à un niveau élémentaire, comme un professeur de lettres cultive celui de la littérature. Toutes les enquêtes internationales corrèlent la qualité de l'enseignement aux efforts durables de développement professionnel des professeurs. Ce qui est jugé indispensable, presque du bon sens, pour un ingénieur ou un médecin qui, dans leur pratique professionnelle, doivent constamment dépasser les savoirs acquis au cours des études initiales, pourquoi ne le serait-ce pas pour un professeur ? Nos voisins britanniques l'ont compris avant nous. Leurs investissements d'avenir ont su mettre en place 10 Science Learning Centers, répartis sur l'Angleterre depuis 2008, qui rapprochent en permanence de la science vivante et de ses acteurs un grand nombre de professeurs. Et les mathématiques font chez eux l'objet d'un effort parallèle. Le rapport que vient d'adresser la Royal Society au gouvernement de Sa Majesté est exemplaire, dans un contexte de manque criant de professeurs pour enseigner les sciences outre-Manche. Et j'ai déjà évoqué l'Allemagne. Notre académie, sur ce point, s'est résolument engagée pour rapprocher professeurs et monde scientifique. D'abord, en soutenant à grande échelle et depuis 10 ans un dispositif réussi d'accompagnement des maîtres d'école par des scientifiques, mettant ainsi en place un dialogue entre ces deux mondes. Dans un avis rendu récemment, elle s'engage à nouveau par des propositions précises et plus ambitieuses, associant pleinement les professeurs pour que se développe entre eux de féconds échanges d'expériences et un travail d'équipe autour de la science qui n'est que travail d'équipe. Il faudra bien sortir un jour de l'impossible arbitrage actuel entre tant de présence devant les élèves et tant de vacances pour faire place à des moments de développement professionnel structuré au cours de la carrière, ceci tout naturellement au sein d'universités qui avaient quelque peu oublié cette mission, mais dont bon nombre semblent prêtes à la ranimer. Enfin, cette troisième orientation, une conception plus globale des savoirs, un décloisonnement des disciplines. Chaque année, ici même, l'Académie des sciences distingue les lauréats de ses prix. Ces travaux révèlent l'immensité des savoirs d'aujourd'hui, leur perpétuel mouvement, leurs interactions croisées et souvent improbables, leur degré d'abstraction, leur extrême technicité, leurs surprenantes applications. Des atomes froids à la matière noire de l'univers, ils déchiffrent inlassablement l'inépuisable complexité du monde. Et notre système d'éducation, ne sachant évidemment plus embrasser cette immensité de savoir, traumatisé, peine à prendre un cap où beaucoup est à réinventer. Il se contente souvent d'aménager des programmes étroitement disciplinaires. Et que l'on ne voit pas dans mes propos une critique d'institutions ou de personnes, car bien des pays se heurtent à ces mêmes difficultés. Que faire lorsqu'en outre, une consultation immédiate de Wikipédia offre tant de savoir à nos élèves qu'ils ne se privent pas de recopier sans parfois comprendre. 250 millions de sites Internet en 2009. Aussi, nous considérons plus judicieux d'extraire de cet immense corpus de savoir un petit nombre de notions de science qui, apprivoisées avec constance et progressivité depuis la maternelle jusqu'en fin de collège, donneront à tous les clés essentielles pour lire le monde et le comprendre. C'est cela même que veut notre socle commun, dont un récent rapport du Parlement révèle la trop lente pénétration dans un collège encore encombré de cloisons disciplinaires bien difficiles à ébranler. Et de même, au rythme actuel, auquel de nouveaux collèges adoptent un enseignement fondé sur une vision plus intégrée de la science et de la technologie, que vous encouragez pourtant, Monsieur le Ministre, sa mise en œuvre risque de prendre près d'un siècle. Le lieu n'est pas ici d'établir cette courte liste de notions clés à caractère fortement pluridisciplinaire que l'on jugerait essentielle à tous, liste à laquelle beaucoup s'essaient dans différents pays. Elle donnerait des clés pour comprendre la matière et la cellule vivante, la terre et sa fragilité, les formes et les surfaces, les nombres et la mesure, le ciel étoilé. Mais ces connaissances ne suffiraient pas. Les compétences d'observation et de raisonnement acquises grâce à l'investigation et à des expérimentations faites en classe font découvrir la nature même de la science. Par exemple, ceci. Démontrer en mathématiques n'est pas vérifier approximativement sur un dessin que les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes. Ou cela. Les explications scientifiques acceptées constituent la meilleure représentation possible des faits connus à un moment donné. Ainsi peut se communiquer entre dogmatisme et relativisme la subtilité de la vérité en science et sa lente construction historique. Ainsi peut s'écarter l'apprendre sans comprendre qui conduit tant de nos concitoyens, parlant de leurs études scientifiques, à avouer, sans rougir, qu'il ne leur en reste rien. Autre décloisonnement, autre cloison disciplinaire à ébranler, la construction inlassable d'un lien fondamental entre science et pratique du français. Ce lien que manifeste le prix annuel décerné par l'Académie française avec l'Académie des sciences à une classe de sixième, comme cette année, celle qui était partie à la recherche des sens du mot « source ». Nous voici bien loin, avec de tels rapprochements, des propos acides d'un François Arago à Alphonse de Lamartine. Ce n'est pas avec des paroles qu'on fait du sucre de betterave, ni avec des alexandrins qu'on extrait la soude du sel marin. Entendons-nous. Ce décloisonnement, ici comme ailleurs, ne signifie pas la banalisation d'un professeur devenu une sorte de pic de la Mirandole. Il s'appuie au contraire sur l'excellence disciplinaire du professeur et son goût pour le savoir construit. Si notre école du socle, entre 5 et 16 ans, pouvait transmettre à tous ses élèves une telle image de la science, alors le magnifique grand récit du monde, cher à Michel Serres et que dessine la science contemporaine, ce récit dissible dans toute culture ne serait plus entendu par nos concitoyens comme un conte de fées, un conte affublé un instant de mystérieux pouvoirs, puis tout aussi vite diabolisé. Car on ne raisonne pas la magie du conte, on s'y abandonne. Au contraire, devenu capable de raisonner, il comprendrait mieux, chacun à son niveau, l'admirable paysage d'une science faite d'imagination, de raison, de modestie et d'éthique. Je conclurai. Notre Académie propose à notre école primaire et à son ministre d'adopter désormais lire, écrire, compter, raisonner, comme les quatre fondamentaux de l'école du XXIe siècle. Dans sa lettre aux instituteurs de 1883, Jules Ferry avait fait des trois premiers un programme politique. Pourquoi ne pas accepter le défi du quatrième et le mettre en œuvre avec les mathématiques et les sciences de la nature, ces écoles privilégiées, mais non exclusives, du raisonnement? Votre récent plan science manifeste, Monsieur le ministre, votre attention au sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais le chemin sera long. Il va demander de la ténacité, sinon de l'obstination. Le temps de l'éducation est un temps long. Il y a 16 ans, Georges Charpak semblait prêcher dans un désert, soutenu par l'enthousiasme d'une poignée, 344 exactement, poignée d'instituteurs qui, à ses côtés, retrouvèrent leur curiosité d'enfant et cessèrent d'avoir peur d'enseigner la science en avouant ne pas connaître la réponse aux questions de leurs élèves. Aujourd'hui, nos écoles, nos universités ont enfin pris conscience qu'il y avait un problème, mais aussi des solutions à construire avec le corps enseignant. Qu'offrir à tous des savoirs et une compréhension de la science était possible, et qu'alors s'augmenterait également le vivier des futurs scientifiques, techniciens, ingénieurs, et que nous verrions se concrétiser l'espoir que formulait Condorcet, « Le progrès des sciences assure le progrès de l'art d'enseigner, lequel, en retour, accélère le progrès des sciences. » Un propos que n'aurait pas démenti Georges Charpak.
Canal Académie vous invite à écouter l'intégralité de l'émission « Les nouveaux défis de l'éducation ». À l'occasion de la séance interacadémique exceptionnelle, vous retrouverez les discours de Gabriel Debreuil, chancelier de l'Institut de France, de Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, de Michel Serre de l'Académie française et de Pierre Léna de l'Académie des sciences. Rendez-vous donc sous la coupole.